Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous revoici donc dans Lectures en liberté pour la suite du roman de Franck Bouys, Grossir le ciel. Gus sortit du temple et marcha vers son tracteur aussi lentement qu'il le pouvait. Puis il grimpa sur l'engin en s'aidant du garde-boue et du volant, cala son sac contre le siège, s'assit et tourna la clé de contact. Le moteur toussa un peu avant de se mettre en route en faisant vibrer les tôles. Posé sur son tas de ferraille, Gus ressemblait à un second monument aux morts à la gloire d'une paysannerie moribonde. Il débraya et enclencha une vitesse, poussa légèrement la manette des gaz. Lorsqu'il releva la tête, le maire sortait, accompagné de trois autres types. Ils n'avaient pas vraiment l'air de bien s'entendre à voir le maire s'agiter. Même avec le bruit du moteur, Gus comprit qu'il leur disait que ce n'était pas la peine de revenir dans les parages, que ce n'était pas un endroit pour eux. Le mot « gendarme » arriva plusieurs fois jusqu'à ses oreilles, sans que ça impressionne visiblement les suceurs de Bible. Gus reconnut l'homme qui s'était perdu au doge dans ses beaux souliers de ville. Le trottoir déneigé semblait mieux lui convenir qu'une ferme, au moins il était sain et sauf et trop concentré sur la discussion pour faire attention à Gus. Ils avaient tous l'air drôlement préoccupés, à en juger par leur mine. Puis le maire tourna le dos aux évangélistes qui montèrent dans leur voiture. Balak se retourna et prit le temps de les regarder s'éloigner sur la D7 en direction du nord, comme s'il était un shérif venant de botter le cul à une bande de hors-la-loi. Le véhicule rapetissa lentement, pris dans les taux formés par les congères rangées de chaque côté de la route, et finit par disparaître après le premier virage. Le maire sembla hésiter un instant sur la meilleure chose à faire et se dirigea vers le bistrot à grandes enjambées. Une fois de retour à la ferme, Gus remarqua que son portail n'était pas correctement remis en place. Inquiet, il gara son tracteur dans la grange. Mars n'était pas là pour l'accueillir et il y avait des traces de pas qui allaient vers la maison et qui n'en repartaient pas. Des traces reconnaissables entre mille. Quand Gus entra dans la cuisine en tenant son sac poubelle rempli de courses, il découvrit Abel, assis sur une chaise avec son paquet de tabac à la main, qui s'apprêtait à rouler des brins dans une feuille de risla plus. « Je t'attendais, » dit Abel. Gus voyait l'œil de son vieux complice, qui frisait en même temps qu'il parlait, comme quelqu'un qui viendrait de faire une bonne farce dont il ne serait pas peu fier. « Tu as bien fait de rentrer au chaud, » répondit Gus, en s'efforçant de paraître naturel. « Tu veux que je t'enroule une ? Merci. Mais je vais plutôt me fumer une gitane. Je viens de m'en acheter une cartouche toute neuve au bourg. Comme tu voudras. Qu'est-ce qui t'amène ?
Je t'avais bien dit que je passerais.
Figure-toi qu'après que tu sois reparti hier, je me suis dit que je t'avais pas bien reçu et que c'était pas correct quand on se dit ami.
T'avais pas le temps avec tes betteraves à moudre, c'est des choses qui arrivent.
Justement, ces choses-là ne devraient pas arriver entre nous.
Moi, t'inquiète pas pour si peu, j'y pensais même plus.
Menteur. Mais c'est pas grave. je suis venu te dire qu'il y a une barrique que j'aimerais bien entamer avec toi.
Avec plaisir, quand tu voudras.
Tu m'en veux pas alors ? Demanda Abel.
Ben, c'est quand même pas moi qui vais te reprocher de pas toujours être bien luné.
Bon alors, c'est entendu. Ce soir, ça t'ira ? À quelle heure ?
Ben, je passe te prendre vers 8 heures, on se fera une omelette.
Te donne pas cette peine, je descends à pied.
Comme tu voudras.
Dis, tu trinquerais bien avec moi avant de t'en aller, dit Gus.
Ben, je m'en voudrais de t'offenser une nouvelle fois.
Ils entreprirent une bouteille. Avec ce que Gus avait déjà bu chez Perrault, la fatigue accumulée et le ventre vide, il commençait à ne plus avoir les idées très claires et s'acheminait lentement et sûrement vers la cuite.
« Je me trompe ou je te sens un peu ailleurs en ce moment ?» lança Abel en faisant tourner son verre vide dans ses mains.
« Me fais pas attention. Les mois d'hiver, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour le moral, tu sais aussi bien ça que moi. Pas vrai ?»«
Sûr. »
Mais ce serait pas aussi un peu ces histoires que tu m'as racontées qui te tracassent à propos d'un type qui se baladerait pieds nus dehors ? Ou peut-être bien que c'est autre chose et que tu veux pas m'en parler ?
Il y a une chose qui me tracasse vraiment, c'est la pluie, quand elle vient pas l'été. Tout le reste, c'est que des trucs sans conséquences auxquels on s'est toujours adapté et qui finissent par être recouverts par d'autres qui n'en ont pas plus au final.
« J'aimerais que tu dises vrai, » dit Abel, pensif.
« J'ai pas dit que c'était la vérité, je dis juste que c'est la mienne.
Ben, j'ai bien compris. » À ce moment-là, Abel piqua du nez au-dessus de son verre, comme s'il pensait y trouver le genre de vérité dont parlait Gus un peu à la manière d'un oracle. Gus ne dit pas un mot. Sentant que des pensées venaient de s'inviter à l'improviste dans la caboche de son voisin. Et des pas agréables, à en juger par sa tête baissée et sa mine d'animal blessé. On ne distinguait plus ses yeux, juste ses sourcils, des broussailles d'aubépine tout emmêlées, qui bataillaient au-dessous de son front plissé. Son regard ne quittait pas le fond de son verre, comme s'il attendait toujours quelque chose, en sorte. Puis il dit...
« Tu sais quoi ?»
Gus ne répondit pas.
De toute façon, Abel ne semblait pas attendre de réponse et il poursuivit en parlant plus à lui qu'à l'homme se trouvant dans la même pièce que lui, ni même à quiconque.
Ben, « C'est un drôle de cadeau, la vie. Ça se refuse pas. N'empêche, on se demande parfois s'il n'y aurait pas mieux à faire que de l'ouvrir sans savoir ce qu'il y a dedans. »
« Je sais pas, » répondit Gus, sans comprendre ce qu'Abel essayait de lui dire. « Je crois que je t'ai jamais parlé de ma femme qui est partie. »«
Non, mais c'est peut-être des choses personnelles dont il n'est pas nécessaire de parler. »«
T'inquiète, je vais pas t'embêter avec ça. »«
Tu m'embêtes pas, » dit Gus, en remplissant de nouveau le verre d'Abel.
Ben, « Je trouve que tu mens bien souvent ces temps-ci et que t'es pas vraiment doué pour ça. »«
Depuis quand que tu es dans ma tête ?»«
Te fous pas de moi en plus. Qui aurait envie qu'on lui parle d'une morte qu'il a pas connue ?»«
Mais arrête, tu veux. Si tu as des envies de m'en parler, tu le fais et j'écouterai. Parce que je peux pas faire plus et t'as pas à me le reprocher. »«
Bon. » On va pas se bigorner sur des choses qui regardent juste que moi. Ça tient toujours pour ce soir.
Évidemment. Abel but son verre d'un trait et se leva. Il se tenait face à Gus, tout raide, comme une espèce de bestiole qui ne voudrait pas être repérée dans un décor hostile. Puis il planta ses yeux dans ceux de Gus après un silence qui ne rendait service à personne et il dit « Tu veux que je te dise vraiment le fond de ma pensée ?»
« Je t'écoute. »
Le diable, il habite pas les enfers. C'est au paradis qu'il habite. Abel sortit là-dessus en laissant sa réflexion se balader dans la pièce, tel un chien qui aurait perdu son maître. Le genre de truc qu'on balance en sachant que ça fera son chemin à coups de hache. Une fois qu'Abel fut parti et qu'il eut repris ses esprits, Gus se soucia de ne pas voir Mars traîner dans le coin. Il sortit pour l'appeler, s'attendant à ce que le chien réplique avec ses oreilles se balançant comme des gants de toilette sur un fil à linge par grand vent. Mais non, ça ne se passa pas de la sorte. Gus se rendit dans la grange, là où Mars avait l'habitude de se reposer. Et il le trouva bien à cet endroit. En s'approchant de l'animal, Gus s'aperçut qu'il tremblait au milieu du foin. Mars ne daigna pas se lever pour faire la fête à son maître. Il redressa la tête avec difficulté, regardant en direction de Gus avec des yeux vitreux, comme un aveugle évaluant une source sonore dans les ténèbres. Par le passé, Gus avait déjà vu un animal en détresse un jour qu'il était parti couper de l'herbe avec son tracteur et sa barre de coupe, fixée sous le marchepied et branchée sous la prise de force. Il avait presque fini de faucher et faisait le tour de la parcelle, passant le plus près possible des arbres en bordure pour ne rien perdre, étant donné que l'herbe dans les Cévennes, c'est un peu comme de l'or. À un moment, Gus avait senti une résistance et entendu un cri ressemblant à celui d'un enfant. Une fois le tracteur stoppé et la barre de coupe relevée, il était descendu du siège. Au milieu de l'herbe coupée, il y avait ce faon qui essayait de se relever et qui n'y arrivait pas. Du sang tachait l'herbe sur un bon mètre carré tout autour de lui. Ce n'était pas un spectacle beau à voir. L'animal avait dû prendre peur à cause du bruit de moteur et s'était caché en attendant que tout redevînt normal, pensant qu'il ne pouvait pas être repéré dans les herbes hautes. Il devait être bien trop paralysé par le manège de l'engin pour envisager la fuite. Quand la barre de coupe était passée à l'endroit où il se trouvait planqué, les lames lui avaient cisaillé les deux pattes arrière aussi facilement que des poils de barbe avec un rasoir affûté. La scène avait soulevé le cœur de Gus. Le faon semblait pleurer, vraiment pleurer. Ni l'homme ni l'animal ne paraissaient en mesure de faire quoi que ce soit pour changer le cours des choses. Finalement, Gus avait pris le faon dans ses bras et attendu qu'il meure, parce que c'était tout ce qu'il pouvait faire, l'accompagner au moment de passer de l'autre côté. Plus difficile à supporter avait été le sang qui n'arrêtait pas de gicler des coupures comme des fuites d'huile sortant de durites sectionnées. L'animal s'était vidé en quelques minutes. Gus l'avait senti partir tout doucement jusqu'à ce qu'il ne tremble plus et qu'il ne pleure plus et qu'il finisse par mourir. Gus était resté agenouillé un bon moment dans l'herbe fraîchement coupée, impuissant et aussi con qu'un être humain peut l'être, avec le faon mort dans les bras et le pantalon tout taché de sang et la chemise aussi. Il avait parlé au cadavre, comme si le faon pouvait l'entendre dans une autre dimension que celle des vivants. Il lui avait dit qu'il était désolé, qu'il n'avait jamais voulu ce qui était arrivé, qu'il fallait lui pardonner, que s'il l'avait su, il aurait préféré laisser pourrir son foin sur pied. Puis Gus avait récupéré les deux pattes coupées, avait saisi le faon, était remonté sur son tracteur, puis s'était mis en route vers la ferme. Au Doge, il avait enterré le faon dans le jardin en disant deux ou trois mots de nature à lui rendre un dernier hommage. Ce n'était certainement pas ce que tout le monde aurait fait. C'était ce que Gus avait fait, sans se poser de questions. Après cette pause musicale, nous revenons au roman de Franck Bouys, Grossir le ciel.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
À observer Mars souffrir, Gus ressentait la même impression qu'avec le fond découvert dans l'herbe des années plus tôt. Il ausculta méticuleusement le chien pour voir s'il n'était pas blessé. Il ne remarqua rien d'anormal. Il essaya de le faire tenir sur ses pattes en le soutenant, mais celle de derrière n'était pas décidée à suivre le mouvement de celle de devant. Mars ne semblait plus avoir de force. On dit que les tiques peuvent transporter un genre de maladie qui tue à petit feu, mais en cette saison, il y avait autant de chances de tomber sur une tique dehors que sur un phoque en plein désert. Gus évalua de plus près la blessure que le chien s'était faite en se bagarrant dans la forêt. Elle était désormais en voie de cicatrisation, à moins qu'une saloperie en ait profité pour pénétrer dans la plaie avant qu'elle ne se referme. Aussi peu probable que l'histoire de la tique. Comme Gus ne savait pas quoi faire pour soulager Mars, il lui apporta du lait et de l'eau. Le chien ne fit même pas mine de renifler au-dessus des gamelles remplies. Il avait apparemment juste envie de se reposer. Gus se dit alors qu'il aviserait le lendemain et que si Mars n'allait pas mieux, il descendrait chez Abel pour téléphoner au vétérinaire. Puis il quitta la grange en verrouillant la porte pour que les courants d'air n'entrent pas. Avant de laisser Mars seul, il lui dit que c'était un bon chien, qu'il fallait qu'il tienne le coup. Des mots identiques à ceux qu'il avait servis au fang en train de crever. Gus n'avait pas vraiment le cœur à rendre visite à Abel, mais comme il s'était entendu pour le soir, il se fit violence, pensant aussi que ça lui ferait du bien, plutôt que de ruminer seul des idées lugubres revenant sans cesse à la manière de l'herbe qui se couche sous les pieds et qui finit toujours par se redresser. Il bourra le fourneau de la cuisinière avec autant de bûches qu'il pouvait en contenir afin qu'il fasse encore chaud dans la maison quand il rentrerait de sa virée. Il savait qu'il n'aurait pas envie de se coucher et qu'il traînerait un bon moment en attendant que le sommeil arrive. Ça, au moins, c'était une certitude. Abel avait bien fait les choses. Quand Gus entra, le couvert était mis et Abel avait versé du vin dans deux verres. L'un des deux était presque vide et ne laissait planer aucun doute quant à la place que devait occuper l'invité. Ben, « Ça me fait rudement plaisir que tu sois venu, » dit Abel, visiblement sincère et plein d'allant. Ben, « Tu en doutais ? Un peu. Ben, tu vois, ça me fait bien plaisir à moi aussi d'être là. On va tout de suite trinquer aux choses qui ne devraient jamais changer, tu veux bien ?»« Il me semble que c'est ce que t'as dit de plus sensé depuis longtemps. » dit Gus en levant son verre. Les deux hommes burent une longue rasade, puis Abel fit claquer sa langue contre son palais avant de dire « Je suppose que je mérite ta réflexion. » « Fais pas attention, j'ai pas trop la tête aux légèretés en ce moment. »« Toujours tes histoires ? Non. Cette fois c'est Mars qui me fait du souci, je crois qu'il est malade. » Bah, « te bile pas, ce genre de bestiole, ça a la peau raide. »« Tu as raison, je dois me faire du mauvais sang pour rien. »« Bien sûr que j'ai raison, tu verras que demain tout ira mieux. » Abel appuya sur le tout, plus que de raison, comme s'il voulait enfoncer un pieu avec un seul coup de masse. « Ouais, se le dire c'est déjà faire un pas dans la bonne direction, » répondit Gus, pas vraiment convaincu. « À la bonne heure, ça c'est le Gus que j'aime, celui qui va de l'avant. On va se faire un repas de roi, regarde. J'ai fait rissoler des patates dans de la graisse d'oie avec de l'ail et du persil, et j'ai sorti 8 beaux œufs pour faire une omelette du tonnerre. » Tout en observant Abel, Gus pensa que les choses changeaient décidément bien vite dans un sens ou dans un autre, parce que c'était la première fois qu'il le voyait se mettre en cuisine. D'habitude, Abel aurait ouvert un bocal de rillettes, sorti une miche de pain et puis du vin, et les deux hommes se seraient débrouillés avec. Je peux te poser une question ? Demanda Gus, pendant qu'Abel cassait les œufs au-dessus d'un bol en faïence.
Si c'est dans mes cordes, je te répondrai.
Je sais plus quoi penser tout de suite. Hier, tu me fais comprendre que je ne suis pas le bienvenu chez toi, et ce soir, tu me prépares un repas, comme tu m'en as jamais préparé depuis 20 ans qu'on se fréquente. Il s'est passé quoi entre les deux ?
Abel se tourna alors vers Gus, et ce dernier n'aima pas ce qui décelait sur le visage qui lui faisait face comme un défi.
Tu en as déjà pincé pour une femme, toi ? Questionna Abel avec un fond de gravité.
Bon, qu'est-ce que tu me demandes là ?
C'est pourtant pas bien compliqué comme question. T'as déjà été amoureux. Et d'après toi, j'aurais pas envie d'aborder ce sujet-là avec toi.
Je vois pas où serait le mal.
C'est pas de mal qu'on parle, mais de gêne. T'es d'accord avec moi qu'on se connaît suffisamment pour pouvoir parler de ces choses sans qu'il y ait des gênes entre nous ?
C'est pas la question.
Tu sais quoi, Gus ? Moi, je crois qu'on ne peut pas passer une vie sans avoir connu de femme. Vraiment connu, je veux dire.
Le ton qu'employait Abel devenait de plus en plus sérieux, comme s'il avait besoin de parler et qu'on lui renvoie la balle de temps en temps pour parvenir au bout de son idée.
Mettons que, justement, tant qu'on n'en a pas connu, on n'a pas à vivre avec la comparaison, répondit Gus.
Sûr que de ton point de vue, ça se défend. Mais je t'assure que tu passes à côté d'une chose que tout homme devrait vivre au moins une fois dans sa vie, à moins que je ne sois pas au courant de tout.
De quoi tu me parles là ? De culbuter une femme, c'est ça ?
Si c'est le cas, t'en fais pas pour moi, je me débrouille, dit Gus, qui montait dans les tours.
T'emballe pas, Gus, je parlais pas juste de gaudriole, mais aussi d'attachement, tu vois ?
Non, je vois pas où tu veux en venir. C'est pourtant pas dans tes habitudes d'être autant dans le vague.
Ce que ne savait pas Abel à ce moment-là, c'était que le souvenir d'une fille tenait Gus en joue depuis longtemps. Elle s'appelait Anna. Et Gus penserait probablement à elle jusqu'à la fin de sa vie. Ils avaient grandi ensemble, en quelque sorte à peu de distance, et d'une certaine façon, il en avait conçu sa propre évolution vers l'âge adulte. La ferme des parents de la jeune fille était située à 2 kilomètres de celle de Gus. Une distance qu'il parcourait souvent pour aller se planquer derrière un tronc d'arbre, un mur, n'importe quoi, du moment qu'il pouvait l'apercevoir, même 10 secondes. Plus d'une fois, les larmes lui étaient montées aux yeux en l'observant étendre du linge avec le soleil complice qui effaçait la robe de la fille, donnant à voir ce qu'un homme passe sa vie à vouloir posséder. Et lorsqu'il retournait chez lui avec ce bonheur douloureux au fond du ventre, il se demandait à chaque fois pourquoi Dieu aurait placé cette créature sur sa route, si ce n'était pas pour qu'elle lui appartienne un jour. Et il y avait eu ce samedi soir. Le comité des fêtes avait fait installer un petit chapiteau sur la place du village pour qu'on puisse danser. À 18 ans, Gus allait au bal pour la première fois. Il avait payé son billet d'entrée à un gros type ruisselant de sueur, qui n'était ni plus ni moins que le président du comité des fêtes et que tout le monde appelait Beden. Gus avait tendu son avant-bras sur l'injonction peu aimable de Beden, qui lui avait tamponné une forme géométrique indéterminée pour le cas où il voudrait sortir sans avoir à repayer pour rentrer de nouveau.
Vous me reconnaîtrez bien, avait dit Gus.
Et Beden de répondre que c'était pas la question, juste un principe qui valait depuis toujours.
Gus s'était avancé sous le chapiteau. Un accordéoniste tout sourire jouait sur une estrade en se balançant de droite et de gauche, agrippé aux hanches modulables de son instrument. Il donnait surtout des marches, étant donné que tout le monde était capable d'improviser ce genre de danse, alors que pour la valse et le tango, il y avait un apprentissage indispensable si on ne voulait pas être ridicule et perdre toutes ses chances en écrasant le pied de sa cavalière.
Étaient présents des jeunes du village et des alentours, des couples emmêlés sur la piste, des garçons paradant devant des rangées de chaises sur lesquelles se trouvaient des filles qui attendaient d'être abordées, comme si leur destin se résumait à être le choix d'un de ces gamins qu'elles prendraient alors pour un homme et que cet ultime privilège pût suffire à justifier une vie entière. Gus cherchait du regard l'unique personne capable de contredire son propre destin, Anna. Elle était la seule fille qui ne se soit jamais moquée de lui, venant même lui parler à plusieurs reprises, et cela depuis qu'ils étaient ensemble à la communale. Gus s'était endimanché d'une chemise blanche et d'un pantalon de toile trop court, retenu par de larges bretelles plaquées sur ses frêles épaules. Rien qui n'eût déjà été porté en d'autres occasions nettement moins festives. Il avait tenté de coiffer ses cheveux, sans réellement parvenir à un résultat satisfaisant. Et malgré tous ses efforts, on ricanait à peine en douce à son passage. Rien ne changeait. Gus n'y prêtait aucune attention. Concentré sur ce qu'il devait accomplir ce soir-là, voulant croire que sa sincérité suffirait à lui ouvrir les portes du paradis. Cette lecture est terminée pour ce soir et pour cette semaine. Et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour la suite et la fin du roman de Franck Bouys, Grossir le ciel. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guillon. Vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonne soirée et à la semaine prochaine.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.